Radio Okapi. Avec Belinda Bosuma à la présentation.
L'état de siège prorogé pour la 12e fois à l'Assemblée nationale, sous l'absence des députés des provinces concernées, l'un d'eux dit déplorer les massacres à répétition en dépit de l'état de siège et plaide pour l'auto-prise en charge de la population de Beni notamment. Kinshasa abrite depuis hier le Forum sur la diaspora congolaise, acteur de développement et de lutte contre la pauvreté en RDC. Objectif de ces assises, favoriser un environnement propice à la mobilisation et aux investissements productifs de la diaspora congolaise dans la lutte contre la pauvreté, indiquent les organisateurs. Et puis, l'invité, pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, il s'exprime sur le périple qu'ils viennent de boucler en Europe et aux États-Unis, ensemble avec l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO. Madame, messieurs, bonjour. D'abord cette information avant d'aller plus loin. Pas de panique pour la population de Goma concernant une éventuelle éruption du volcan Nyamulagira. L'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, parle simplement d'une éruption interne. Dans une déclaration hier à Radio Okapi, Kasere Kamainda, directeur scientifique de l'OVG, indique qu'ils ont constaté que le magma n'est pas très loin et qu'il pourrait éventuellement sortir à l'intérieur tout comme à l'extérieur du cratère. Ce scientifique appelle la population de la région au calme et assure que cette activité volcanique ne présente aucun risque du fait qu'elle est concentrée dans le cratère. Kasere Kamainda explique la situation au micro de Sifa Maguru.
La population doit rester tranquille. On a survolé et on a aussi des données avec des partenaires américains surtout, des VIDAP. L'activité est encore concentrée dans le cratère. Nous sommes en train de vivre des phénomènes à l'intérieur du cratère. Et les moments venus, s'il y a des menaces, si les populations sont menacées, nous allons les former. On veut dire tout simplement que ce soit au Nyamulagira, les villages qui sont autour de Nyiragongo et de Nyamulagira, les populations doivent garder leur calme, la situation correcte. Mais ce que nous pouvons recommander à la population, quand vous vivez autour des volcans, il faut avoir un comportement différent de celui qui vit à Beni, là où il n'y a pas de volcan, de celui qui est à Bukavu, de celui qui est très loin vers Kigali, il faut avoir un autre comportement. Donc, à n'importe quel moment, c'est un volcan hors de panache, ce que vous appelez fumée, il y a toujours de la poussière, des cendres volcaniques, et aussi ça pollue aussi l'atmosphère. Donc, on doit avoir un certain comportement pour ne pas prendre de la nourriture, par exemple, à l'extérieur. L'eau de pluie, il faut faire attention à ça.
Ce scientifique rappelle que la dernière éruption externe du volcan Nyamulagira date de 2011 et depuis 2014, ce volcan enregistre des éruptions uniquement internes, précise Kasere Kamainda. Si cette éruption s'avérait externe, elle pourrait alors entraîner des conséquences humaines et environnementales, notamment la destruction de l'écosystème, affirme l'OVG. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a procédé hier à la 12e prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. En l'absence des députés des deux provinces concernées, les élus de l'Ituri et ceux du Nord Kivu ont boycotté cette plénière et disent être opposés à une énième prorogation sans plan de sortie. L'élu de Beni, Daniel Kambale, déplore la multiplicité des massacres en dépit de l'état de siège et plaide pour l'auto-prise en charge de la population de Beni. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Sollicitant la 12e prorogation de l'état de siège, la ministre de la Justice fait savoir qu'en dépit des efforts entrepris par le gouvernement, beaucoup de défis restent encore à réaliser compte tenu de la particularité de ces conflits armés. Rose Mutombo.
La problématique de la sécurité de la partie est de notre pays est une préoccupation pour tous. Alors que les efforts de nos forces de défense étaient concentrés sur l'épicentre des violences armées, les ennemis de la paix ont fait incursion dans les territoires des Rutshuru.
Déplorant la continuité des tueries en plein état de siège, l'élu du Nord Kivu, Daniel Kambale, invite le chef de l'État à autoriser la population à se défendre avec des armes conformément à la loi de 1985.
Les dispositions des articles 5 et 10 de l'ordonnance loi portant régime des armes stipulent que les civils peuvent s'organiser en groupe d'autodéfense moyennant autorisation du chef de l'État.
Notez qu'avant la tenue de la plénière, le bureau de l'Assemblée nationale a conféré avec les élus de l'Ituri et du Nord Kivu pour tenter de les ramener en plénière qu'ils ont quitté avant la 11e prorogation de l'état de siège.
Entre-temps, sur le terrain au nord Kivu, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans la chefferie de Bachou, territoire de Beni. Ce constat a été fait hier lors d'une mission d'évaluation des deux jours organisée par la MONUSCO, accompagnée des autorités coutumières et militaires dans cette zone. Cette délégation s'est rendue notamment dans la localité de Kisunga, qui avait été attaquée par des présumés rebelles de l'ADF la semaine dernière. Grâce Hamzati a fait partie de cette délégation. Voici son reportage.
Nous avons des vieilles qui sont ici. Nous avons aussi nos mères aussi qui sont à Sende. Pour leur santé, qu'est-ce que nous allons chaque fois faire pour les soigner, vu que notre cendre vient d'être cendrié?
Cette question est l'une des préoccupations majeures des quelques rares habitants qui sont restés à Kisunga. Le colonel Marcel Kaloni Chalunga, administrateur adjoint du territoire de Beni, parle d'un désastre.
Nous venons de constater que l'ennemi a brûlé pratiquement la grande partie de l'hôpital, mais on a tout pillé. Donc vraiment, c'est dégueulasse. Ça fait très mal pour la population de Kisunga parce que maintenant ils ne savent plus où est-ce qu'ils peuvent aller se faire soigner. C'est encore un problème que nous devons résoudre immédiatement. D'ici là, il y a un renfort de la police qui est arrivé. Il y aura de la police même jusqu'à Kisunga et on aura de la police partout dans la région.
Pour sa part, le chef de la délégation de la MONUSCO réaffirme la détermination de la mission onusienne avec les forces gouvernementales pour la pacification de cette zone. Mero Awangansi.
Comme vous savez, la MONUSCO est toujours en appui, en accompagnement aux autorités. Nos efforts vont continuer. Il faut renforcer les mécanismes qui sont en place pour que nous puissions être informés à temps et mettre en place des mécanismes pour anticiper ce genre de situation.
Notons que le bilan final de cette attaque fait état des 38 civils tués, nous a affirmé le chef de la chefferie. Des retours de Kisunga, grâce à Hamzati, Radio Kapi.
Par ailleurs, la MONUSCO s'est vue rassurante dans la réalisation de sa mission aux côtés de la communauté de Beni. Le chef intérimaire du bureau local de la MONUSCO demande à la population de se méfier des rumeurs qui se propagent sur les réseaux sociaux. Abdourahmane Ganda rappelle que la mission onusienne travaille sans relâche pour répondre aux défis sécuritaires qui se posent dans la région. Le chef intérimaire du bureau de la MONUSCO Beni explique au micro de Guylaine Kassassia.
Je voudrais m'adresser à vous tous et particulièrement à la jeunesse. Au niveau de la MONUSCO, nous avons une politique de porte ouverte et de bras tendus. Si vous avez un besoin de toute nature, venez l'exprimer. N'écoutez pas les gens qui vous disent le contraire. La MONUSCO est là pour les Congolais, mais il y a beaucoup de rumeurs qui se disent dans les réseaux sociaux. Ne faites pas attention. La MONUSCO n'est pas ici pour tuer les Congolais. Elle est là pour les protéger. Nous travaillons jour et nuit. Rien ne va nous décourager à le faire. Présentement, la situation est difficile dans le Bachou et nous en sommes tous préoccupés. Nous avons une équipe qui est présentement en route pour là-bas pour protéger la population et l'aider. Je viens de recevoir un message où on dit un hélicoptère de la MONUSCO est parti se poser hier pour livrer des armes aux ADF. Faux. L'hélicoptère est parti, c'est vrai. Il est parti pour préparer le terrain afin qu'on déploie des militaires pour protéger la zone.
À présent, la suite de notre série de reportages sur le réchauffement de la coopération entre la RDC et ses voisins de l'Est pour résoudre de nombreux conflits dans la région des Grands Lacs et créer une dynamique régionale et de développement. L'Union africaine et l'ONU ont mis en place depuis 2006 un mécanisme régional. Il s'agit de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, qui regroupe plusieurs pays de la région élargie à la communauté d'Afrique de l'Est, EAC. Mais quel est le bilan de la CIRGL à ce jour quand on sait que très récemment, des accrochages ont eu lieu entre l'armée rwandaise et congolaise à partir du territoire de Nyiragongo. Des précisions dans ce reportage de Gisèle Cage, rendu par Bernard Nyangi.
La conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL fut établie conjointement par le secrétariat des Nations Unies et l'Union africaine à Nairobi au Kenya en 2006. Elle fut le premier mécanisme établi pour régler les conflits dans la région des Grands Lacs. Elle comprend en majorité les pays limitrophes de la RDC. Dès son installation, une année après, en 2007, la CIRGL était confrontée à la crise occasionnée par la rébellion du CNDP de Laurent Kunda. Cinq ans après, de mai 2012 à novembre 2013, la CIRGL a fait face à une grande crise, la guerre du M23. D'autre part, c'est à l'issue de plusieurs discussions à Kampala en Ouganda que la CIRGL avait proposé la création d'une force neutre pour mater les rébellions à l'est de la RDC dans le M23. Cette idée sera renforcée par l'ONU qui créa à travers la résolution 20 1998, la brigade d'intervention de l'ONU FIB au sein de la MONUSCO. La CIRGL a notamment mis en place certaines structures pour la consolidation de la paix, dont le mécanisme conjoint de vérification des frontières MCV entre l'Ouganda, la RDC et le Rwanda, créé en septembre 2012 et qui sera plus tard élargi à la MONUSCO. En dehors des questions sécuritaires, la CIRGL a notamment mis en place un vaste programme sur les questions de développement, de gouvernance et de démocratie. Mais les défis sécuritaires restent dans la région. La question de l'ADEF, qui poursuit les massacres des populations civiles dans la région du Nord Kivu et de l'Ituri. Certains experts reprochent toutefois à la CIRGL de n'avoir jamais pris des sanctions contre les pays qui violent son traité fondateur.
Diaspora congolaise, acteurs de développement et de lutte contre la pauvreté en RDC, c'est le thème principal du forum des deux jours ouvert hier à Kinshasa. Ces assises lancées par le président de la République ont entre autres objectifs favoriser un environnement propice à la mobilisation et aux investissements productifs de la diaspora congolaise dans la lutte contre la pauvreté. Reportage de Paul Matendo Mayamba.
Pour le conseiller du chef de l'État en matière de développement et de lutte contre la pauvreté, la diaspora congolaise constitue un moteur important pour le développement de la République démocratique du Congo. Il convient donc, explique Jude Badibanga, de canaliser ses efforts afin de relancer l'économie du pays.
Créer les liens, faciliter l'investissement dans le pays, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté. Je pense là, parmi les grandes résolutions, c'est mettre en place un fonds d'investissement qui sera une grande machine.
Freddy Songo, chef de mission diplomatique auprès de l'ambassade de la RDC en Angola, est l'un des initiateurs des activités génératrices de recettes de la diaspora congolaise, invite lui le gouvernement à faire des Congolais de l'étranger des vrais ambassadeurs afin de créer une classe moyenne.
Nous manquons une classe moyenne. Il y a trop de riches et il y a trop de pauvres. Que chaque élément de la diaspora, si on pouvait en faire un ambassadeur pour le développement de la RDC, je crois que nous arriverions à avoir cette classe moyenne.
Fabien Samboussi, chef de mission de l'Organisation internationale de migration, co-organisateur de cette rencontre, estime pour sa part que la diaspora congolaise est le premier partenaire économique de la RDC.
Parlons santé à présent. Au Congo central, la fièvre typhoïde refait surface dans certaines agglomérations de la zone de santé de Kisantu, territoire de Madimba. Le médecin-chef de cette zone de santé qui confirme l'information indique que cette maladie apparaît souvent dans cette contrée pendant la saison des pluies à cause de la mauvaise gestion des latrines. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Cette flambée des cas de fièvre typhoïde observée dans la zone de santé de Kisantu touche plus les aires de santé de Nkandu, Kinkonka, Kintanou 2, de Kivuya ainsi que celle de Ngeba. Jusqu'à présent, plus d'une dizaine de cas y ont été détectés grâce à une activité que la zone de santé de Kisantu mène conjointement avec l'INRB dans le cadre de surveillance des maladies, affirme le responsable de la zone de santé de Kisantu, Dr. José Mavuna. Pour endiguer cette maladie des mains sales qui, fort heureusement, n'a pas fait des victimes jusqu'à présent, le médecin chef des zones de Kisantu invite la population au renforcement des mesures d'hygiène. Docteur José Mavuna.
Nous demandons à la communauté de pouvoir respecter les mesures d'hygiène, laver les mains après les selles avant de manger, de pouvoir aménager de la latrines hygiéniques parce que on se rend compte que beaucoup de ménages n'ont pas de latrine hygiénique. Une latrine hygiénique, c'est une latrine qui est profonde. Le trou doit avoir un couvercle, sinon avec chasse-eau. La défécation à l'air libre aussi, nous la découvrons. Les mangues, les avocats, on ne les consomme pas sans les nettoyer.
La typhoïde qui a comme symptôme majeur la fièvre et des coliques abdominales peut, si l'on y prend garde, aboutir à une perforation intestinale. C'est pourquoi ces médecins appellent toute personne qui se sent malade à se rendre au centre de santé les plus proches. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Direction le Maniema. Les enseignants du réseau catholique disent non à la reprise des cours, comme l'ont fait leurs collègues le lundi 15 novembre. Ils se sont exprimés ainsi hier à Kindu, à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Mangila Cléophas, secrétaire provinciale du Sinecat, invite ses pairs à durcir ce mouvement en attendant les résolutions de leur hiérarchie. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Les enseignants des écoles conventionnées catholiques, dans leur structure syndicale synécate, se sont décidés, par rapport à leur statut, se rencontrer pour trouver des voies et moyens aux problèmes qui nous préoccupent, notamment la grève. Nous avons eu à analyser d'abord les différentes correspondances émanant de notre hiérarchie, dûment signées par l'autorité attitrée du gouvernement central, novembre 2021, portant fixation des frais scolaires pour le premier trimestre. Après débat et délibération, les camarades de Sinecat ont décidé de continuer à rester à la maison pendant les résolutions qui seront entreprises entre l'autorité provinciale et les banques syndicales du Sinecat par rapport à leurs revendications. Effectivement, le message est bien passé. Nous demandons aussi à ces enseignants qu'on puisse être solidaires afin de mener notre action syndicale comme il faut. Pour le moment, nous continuons avec la grève.
Actualité internationale. Nous sommes au Mali. 149 personnalités sont visées par des sanctions individuelles infligées récemment par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ne fait pas partie de cette liste, mais quasiment tous les membres du gouvernement malien, à l'exception du ministre des Affaires étrangères, sont concernés. En tête de la liste, le premier ministre Choguel Maïga. À un mois et demi de l'élection présidentielle, la Libye compte 7 candidats déclarés. Les candidatures les plus remarquées et controversées sont celles de Saïf al-Islam, fils de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi, et celle de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, qui était à la tête de l'autoproclamée armée nationale libyenne. La campagne électorale est bel et bien lancée en Libye.
L'invité.
Il s'agit du pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, SCC. Il s'exprime sur le périple qu'il vient de boucler en Europe et aux États-Unis, ensemble avec l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO. Objectif, selon lui, faire notamment le plaidoyer par rapport au secteur judiciaire et à la démocratie. Le révérend pasteur Eric Senga est interrogé par Alain Rungmushinj.
Pasteur Eric Senga, bonjour.
Bonjour, monsieur Hirou.
Quel a été l'objet de votre séjour en Europe?
Nous avons été dans une mission de plaidoyer, ce qui est un exercice habituel à nos deux institutions. Il faut signaler que c'est tout de même la première depuis la formalisation de la relation entre l'ECC et la CENCO depuis 2018. Et il était question justement de mener ce plaidoyer qui a eu 3 points à l'ordre du jour. Donc nous avons travaillé sur des questions relatives à la justice, à la démocratie et au développement. Donc il a été question de discuter sur tout ce qui rentre dans le terme de la justice transitionnelle, qui est le paradigme que nous proposons jusque-là en termes d'amélioration des questions de justice. Au niveau des questions liées à la démocratie, nous avons éventuellement parlé du processus électoral, de toutes les difficultés de l'heure et les perspectives que nous estimons nécessaires pour la sortie des crises. Et au niveau du développement, nous avons parlé de l'exploitation minière, notamment avec tous ces contrats. Ça et là dérange aussi le développement du pays, mais bien entendu, qui sont à la base de l'instabilité aussi de notre situation sécuritaire. Nous avons été à l'Union européenne. Après cette étape de l'Europe, nous sommes allés aux États-Unis. Nous avons fait le même exercice. Cette fois-là, nous avons été avec les départements d'État américains, les congrès, la Chambre des représentants, les Sénats. Et nous avons aussi discuté avec d'autres partenaires, notamment qui travaillent dans les 3 secteurs. Énumérés.
Vous parlez de la démocratie, je présume que vous avez évoqué également le cas de la CENI avec l'entérinement de Denis Kadima à ces sujets. Qu'est-ce que vous avez dit à vos interlocuteurs?
Il a d'abord été question de préciser la nature de la crise parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations. Il était vraiment important pour nous d'arriver là parce qu'on s'est rendu compte que la grille de lecture qu'avaient nos partenaires, nos amis, était tout autre et contraire à la réalité. Donc il était question de montrer que le vrai problème qui est aujourd'hui là sur le sujet CENI est lié au manque de respect des procédures et des règles en la matière. Et donc, pour nous, c'est clair, cette CENI qui est là, ce n'est pas celle qui reflète la volonté du constituant congolais, moins encore du législateur. C'est une CENI qui ne reflète que la volonté d'un groupe politique, notamment d'une des parties prenantes.
Ne pensez-vous pas qu'en lieu et place d'organiser des manifestations, l'Église catholique et l'Église protestante feraient œuvre utile en renforçant plutôt le contrôle au niveau de ces élections?
Pour sortir de la crise, nous avons préconisé déjà quelques mécanismes. Il nous faut renforcer les contrôles contrôle. Parce que ce qui est aujourd'hui mis en cause, c'est la confiance des parties prenantes, d'une part, et la confiance de la population, d'autre part. Mais d'autre part, nous avons aussi parlé des mécanismes extérieurs à la CENI, notamment liés à tout ce que nous faisons d'habitude dans un processus électoral, à savoir l'éducation civique et la mission d'observation électorale.
En disant que vous n'allez pas collaborer avec le bureau de Denis Kadima, est-ce que vous ne pourrez pas être accusé de ne pas vouloir que ces élections se passent de manière apaisée?
Les élections ne sont pas une finalité en soi. En notre sens, les élections sont un moyen. Si le peuple congolais estime que nous devrions aller aux élections pour les élections, avec probabilité certaine de se rencontrer face aux véritables éventualités des crises, alors nous ne serons qu'en train de faire le surplace. La crise que nous refusons de résoudre aujourd'hui finira par nous rattraper demain. Donc pour nous, la question n'est pas d'aller aux élections pour les élections. Parce que l'enjeu majeur du processus électoral, tel que présenté même à l'issue des consultations initiées par le chef de l'État, est la crédibilité, la confiance, envie d'avoir des institutions légitimes. Aujourd'hui, tous les indices sont clairs que la crédibilité est mise en cause. Ce n'est pas seulement Kadima les problèmes. Nous avons un cadre juridique qui nous pose sérieusement problème. Quand nous entendons de la bouche de ceux-là qui sont censés sécuriser notre cadre juridique, tu parles des parlementaires, on les entend crier à longueur de journée qu'on ne peut pas dépolitiser la CENI. Alors la question que nous nous posons, s'ils savaient au préalable qu'ils n'ont pas l'intention d'offrir à la République une CENI crédible, indépendante, comme le veut la Constitution, pourquoi produire des lois qui nous attribuent, nous confessions religieuses, la compétence de désigner le président? Pourtant, ils avaient plutôt la démarche politicienne de passer simplement derrière les dos des confessions pour imposer leur candidat.
Pasteur Eric Senga, merci.
Le porte-parole de l'Église du Christ au Congo était avec Alain Rumushinj. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo, à la technique Jean-Noël Mokondo. Merci de nous avoir suivis.